en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Raconter l'histoire d'une famille de bourreaux, en voilà une drôle d'idée. C'est pourtant l'entreprise dans laquelle se sont lancés deux auteurs de bande dessinée. Au scénario, Patrick Mallet, au dessin, Boris Beuzelin, qui ont mis leur talent au service de trois albums qui nous racontent une vraie famille d'exécuteurs des hautes œuvres sur six générations entre les 17 et 19e siècles. Un récit rouge sang et noir comme la mort, sanguinolent, haletant et enlevé, qui s'appuie sur un destin réel et des moments ancrés dans l'histoire, mais qu'ils ont aussi nimbé de fantastique à travers l'intervention d'un personnage inquiétant et mystérieux. Les deux premiers tomes de ce triptyque, Les Sansons et l'Amateur de souffrance, sont d'ores et déjà disponibles chez Vent d'Ouest, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Est-ce que les bourreaux, ce sont des héros, Patrick Mallet ?
Bonjour. Oui, à mon sens, c'était toute l'entreprise, en fait, justement, de ces albums, c'était d'en faire les héros de l'histoire. Et d'oublier un petit peu le côté, justement, exécuteur, tortionnaire. D'ailleurs, à ce propos, je voulais surtout montrer qu'effectivement, tout ce qui était torture, question, c'était réservé, en fait, au Châtelet. Ça se passait avant. Et les bourreaux, les exécuteurs, justement, sont ceux qui vont apporter la sentence. Alors effectivement, parfois, elle était abominable, mais il s'agissait surtout d'exécuter la décision de la justice, et non pas de faire souffrir.
Mais alors, comment vous est venue cette idée de raconter l'histoire des bourreaux, et singulièrement l'histoire de cette famille, les Sansons ?
Alors, à l'origine, il y a un album d'un autre collègue qui s'appelle Simon Hureau. L'album s'appelle Hautes œuvres, et en fait, c'est un album qui raconte le supplice de Damiens, celui qui a donc poignardé Louis XV. J'ai lu cet album, et puis au cours d'une dédicace dans un salon, j'ai rencontré Simon, et c'est lui qui, pour la première fois, m'a parlé de la dynastie des Sansons. Et moi, tout de suite, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, parce que je me suis dit, forcément, un jour, ça allait m'intéresser. Il s'est trouvé qu'après, notre éditeur chez Glénat avait besoin d'une histoire qui se déroulait comme ça sur plusieurs épisodes. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé les Sansons.
Mais alors, vous êtes dessinateur aussi. Vous auriez pu décider vous-même pourquoi faire appel à Boris Beuzelin.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est l'éditeur, de nouveau, qui nous a proposé de travailler ensemble sur ce projet-là.
C'est pas uniquement parce qu'il est normand, lui aussi.
Ça aurait pu, mais c'était la volonté de l'éditeur, effectivement. À l'origine, il fallait que ça soit un truc un petit peu à l'américaine, dans le sens où il y aurait eu une personne qui faisait le scénario, une autre qui faisait le storyboard, une troisième qui faisait le dessin, une quatrième les couleurs. Enfin, ça devait être une espèce de travail comme ça d'équipe. Ouais. Finalement, on s'est retrouvé à deux avec le coloriste. Voilà, mais ça s'est très bien passé.
Alors, c'est effectivement en Normandie, hein, comme je le subodorais à l'instant que commence l'histoire. Nous sommes donc sous le règne de Louis XIV en 1675, suite à une mauvaise chute de cheval. Charles Sanson est recueilli, soigné par un homme un peu bougon dont la fille Marguerite joue les infirmières. Charles tombe amoureux d'elle, il se voit en cachette. Un jour, le père les surprend et pour sauver l'honneur de la fille, ils vont se marier. Ça, c'est le début du premier volume. Hein. Et Charles va épouser en fait à la fois la jolie Marguerite et la terrible profession de son père, qui n'est autre que Pierre Jouenne, le bourreau de Rouen. Alors Pierre Jouenne, vous le dessinez, Boris Beuzelin, comme une brute épaisse, je crois.
Oui,
alors il n'y a pas d'autre expression. Hein. C'est un personnage qui a vraiment existé. Vous êtes inspiré du vrai ?
Ouais. Ah non, du tout. Non. Alors là, c'est très compliqué de trouver des documents là-dessus. Non. De toute façon, j'avais décidé de mettre de côté cet aspect-là et puis de créer mes propres personnages. Alors, c'est vrai que là, on est au début de la série et moi, j'avais pas quand même envie au départ de montrer les bourreaux sous cet aspect caricatural de effectivement la grosse brute, la cagoule. Et puis
c'est le seul qui est ainsi.
Mais celui-là, il est comme ça effectivement, peut-être pour amorcer justement le récit et dire voilà, pas tromper le lecteur non plus. Attention, on arrive dans une histoire de bourreaux. Mais lui, ce personnage-là, c'est un personnage, même s'il amorce le récit, qui est un personnage secondaire. Après, on va s'intéresser.
Oui, secondaire, mais extrêmement cruel, pas d'une très grande finesse, très dangereux, enfin qui joue en plus un jeu assez trouble. On va pas tout, on va pas tout raconter, mais quand même. Et donc c'est lui qui va apprendre le métier à son gendre un peu forcé, parce que lui, évidemment, il a aucune envie, hein, ce jeune Charles, de devenir bourreau. Il le raconte en tout cas dans les carnets, puisque à ce moment-là de l'album, c'est lui qui est le narrateur de l'histoire, Charles. Il entend donc transmettre, raconter son aventure à son fils. Nous sommes page 16 du premier tome.
Pierre Jouhain ne me ménagea pas. Il m'apprit son terrible métier à la dure. Du jour au lendemain, je devins son assistant et fus projeté dans un monde fait de douleurs, de cris et de sang. Et un jour, sur l'estrade de la place du Puy Salé de Dieppe, il me tendit la lourde barre de fer avec laquelle il devait rompre les membres de Martin et Slow, condamnés à la roue pour avoir tué son maître. Je me souviens encore du bruit que fit ce premier os que je brisais.
Allez, Charles, qu'est-ce que tu attends ? À toi, frappe comme je te l'ai dit, sur l'articulation.
Mes débuts furent, je le crains, bien loin d'être probants.
Faut qu'on m'entende ou quoi ?
Plus fort ! Plus fort !
À ma démarche, je dois dire honnêtement que je n'étais pas fait pour devenir bourreau. Qui peut l'être, d'ailleurs ? Bourreau, en fin de compte, c'est un métier. Certes, il n'est pas comme les autres, mais il s'apprend. Et j'ai appris. J'ai appris à flageller, j'ai appris à marquer au fer rouge, j'ai appris à mutiler les yeux, la bouche, la langue, les oreilles, les dents, les bras, les mains et les pieds et même le cœur. J'ai appris à découper et à arracher tout ce qui peut se découper ou s'arracher sur un corps humain. J'ai appris à mettre au pilori ou en croix, j'ai appris à rouer jusqu'à ce que mort s'en suive, à pendre, à décapiter, j'ai même appris comment brûler un condamné sur un bûcher. Par contre, je ne crois pas que l'on s'habitue jamais à tuer un homme, mon fils. C'est à chaque fois une expérience terrible et très traumatisante, comme tu t'en rendras compte bien assez tôt. Je suis juste devenu meilleur pour effectuer cette triste besogne.
Patrick Mallet, dans quelle mesure est-ce que vous avez été soucieux d'un bout à l'autre de votre récit de la vérité historique ?
Il faut juste que je me remette un peu parce que c'est assez incroyable d'entendre, en fait, avec tout l'appareillage derrière, les dialogues. Alors, la vérité historique, en fait, elle est... j'ai essayé de la respecter le plus souvent possible, mais ma principale source, en fait, pour écrire ce scénario, ça a été le journal qu'a écrit le dernier des Sansons, le sixième. On lui a demandé, en fait, voilà, pourriez-vous raconter l'origine et toute la généalogie de votre famille. Et il s'est, sans jeu de mots, exécuté. Donc il a écrit ce journal. Et c'est un journal qu'on peut lire, voilà, qu'on trouve en libre de droit sur Internet. Donc je l'ai lu. Et c'est vrai que c'est là la principale source, en fait, pour toute la dramaturgie, peut-être un peu biaisée, pourquoi pas faussée, mais j'avais après effectivement toute la véracité historique, je l'ai respectée avec les autres sources qui, celles-là, sont faciles à prendre.
Et graphiquement parlant, Boris Bezonin, pour les costumes, pour l'architecture, pour les lieux historiques, parce que l'album, oui. Les deux albums sont parsemés de lieux qui existent réellement, notamment quand les personnages sont à Paris, vous vous êtes inspiré de quoi ?
Alors, moi, je dois dire que l'aspect documentaire a été un souci pour moi assez important au début, parce que j'avais jamais traité de sujet historique, et du coup, j'avais envie de bien faire, bien sûr, donc je me suis documenté énormément, donc bon, Patrick avait fait un gros travail de recherche iconographique pour moi déjà. Mais bon, bah, qu'est-ce qu'on a ? On a les gravures, on a les peintures, on a éventuellement les récits de chroniqueurs, on a tout ça. Mais du coup, je me suis vite trouvé noyé sous cette documentation et tout était prétexte à une recherche documentaire. Du coup, j'arrivais pas à avancer suffisamment dans mon récit et à être dans mon récit, quoi. Donc du coup, au début, j'étais un peu perdu avec ça. Puis finalement, bon, je m'en suis affranchi au bout d'un certain temps.
Mais c'était important pour vous d'être un minimum crédible.
Ah bah oui, moi j'avais très peur de ça, justement, qu'on me dise mais qu'est-ce que vous avez dessiné ? Ça, c'était pas comme ça du tout.
Oui, mais justement, alors ça c'est étonnant parce que il y a une dimension qui est pas documentaire du tout, évidemment, mais enfin qui est quand même un minimum crédible. Et pourtant, vous avez adjoint ce côté fantastique, hein, avec ce personnage qui s'appelle donc l'amateur de souffrance, qui prend au fur et à mesure que le récit se déroule une importance inquiétante. C'est un monstre, hein, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Il assiste aux exécutions et il en éprouve quelques avantages. Nouvel extrait du premier album Mis en onde, toujours dans le tome 1, donc page 34.
Le 13 avril 1685, j'eus à exécuter une femme nommée Thérèse Boissière qui avait empoisonné son mari. La beauté de Madame Boissière avait attiré un public plus nombreux qu'à l'accoutumée. La place autour de l'échafaud était noire de monde. Depuis l'annonce de son exécution, j'étais extrêmement mal à l'aise à l'idée de supplicier une aussi jolie personne malgré son crime. et j'appréhendais déjà le moment où il me faudrait confier une partie de cette femme à l'odieux personnage qui se tenait comme d'habitude les yeux rivés sur l'instrument que j'allais abattre. Ces circonstances firent qu'un événement des plus déplorables se produisit. Je ratai mon coup. Je dus m'y reprendre à 3 fois pour décapiter cette malheureuse. Mais l'agonie prolongée de Madame Boissière ne fut pas la raison pour laquelle cette exécution ratée restera jusqu'à mon dernier souffle dans ma mémoire. Ce fut ce que je vis dans la foule lorsque je relevai les yeux. L'armateur avait rajeuni d'au moins 30 ans à la vision du supplice infligé à cette femme. Voilà mon fils. Voilà qui est réellement cet être démoniaque. Un monstre. Qui retrouve sa jeunesse au spectacle de la souffrance humaine.
Voilà, l'élixir de jouvence, en quelque sorte, causé par la souffrance des autres. Pourquoi ajouter cette dimension fantastique à un récit qui est quand même un récit à base historique, Patrick Mallet? Pourquoi vous aviez besoin de cette dimension supplémentaire?
Alors moi, je suis assez féru de fantastique depuis assez longtemps. Là, il s'est trouvé qu'en plus, à la lecture de nouveau, il y a une lecture, plusieurs sources, il y a le convive des dernières fêtes de Villiers de l'Isle-Adam, qui est une petite nouvelle dans laquelle on voit un personnage assez glaçant, comme ça, qui assiste à une fête et qui, à l'aube, va se rendre en fait à l'exécution d'un condamné. Donc il passe toute la soirée reclus dans un coin, simplement parce qu'il est là et il doit assister à l'exécution. Et à cela vient s'ajouter, apparemment, selon des sources que j'ai pu consulter, de véritables amateurs de souffrance, ou en tout cas d'exécution, qui étaient des nobles qui, peut-être au 18e, 19e siècle, voyageaient comme ça de ville en ville pour assister aux exécutions. Donc j'ai mélangé les deux et j'en ai fait un personnage avec un côté effectivement très vampirique, c'est-à-dire qui se nourrit du sang symbolique. C'est pas comme Dracula où là vraiment il y a le sang lui sert de nourriture. Là c'est vraiment le symbole, le spectacle et la souffrance.
Oui, le spectacle effectivement, parce que la médiation, si j'ose dire, entre le lecteur et l'amateur de souffrance, elle passe notamment par les yeux du personnage Boris Vezelin. Et c'est vrai que rien qu'en là, j'ai les deux couvertures sous les yeux, justement, c'est le cas de le dire, on est vraiment saisi par ce regard. Comment vous l'avez créé graphiquement, cet amateur de souffrance?
Alors, l'amateur, il est directement inspiré d'un acteur. Non, je me souviens plus le nom.
Ah, c'est bien dommage. Mais ça lui aurait fait plaisir, j'en suis sûr.
Non, mais qui est issu de la série de Nicolas Le Floch, donc dans un des épisodes. Et quand j'ai regardé cet épisode, j'ai vu ce personnage-là et je me suis dit c'est lui. Donc je m'en suis inspiré comme base.
Après, donc il y avait le tricorne, il y avait cet
habit noir, cette grande cape. Ce côté très très intrigant, notamment avec ce regard assez étrange. Au-delà de ça, moi je suis assez par ailleurs féru d'expressionnisme et notamment de cinéma expressionniste. Donc j'aime beaucoup que les émotions passent par le regard de mes personnages. Donc
le regard et puis la bouche aussi, il y a des expressions faciales
Oui, il y a un côté assez théâtral, effectivement, dans mes attitudes, dans les poses de mes personnages.
Oui, voilà. Avec souvent, d'ailleurs, des cases où on voit vraiment la figure du personnage en gros plan, alors que dans la case précédente, il est à peu près impassible. D'un coup, elle semble s'animer comme ça. Il y a un côté presque marionnette, presque pantin, je trouve, dans votre façon dont vous mettez en scène les émotions.
Oui, oui, effectivement, ça passe notamment par là, parce qu'effectivement, en bande dessinée, ce sont des images fixes, hein, on n'a pas l'émotion que peut véhiculer un acteur quand il est au cinéma. Donc, il faut faire des images marquantes, quoi. Il faut que l'aspect iconographique soit très impactant. Donc, sur ce type de récit, en plus, j'avais besoin, effectivement, d'exagérer même cet aspect-là.
Les bourreaux, ni des martiens, les bourreaux, ni des animaux, les bourreaux sont des humains, les bourreaux font de vieux os, les bourreaux se font pas de mourons, les bourreaux se lavent les mains, les bourreaux rentrent à la maison, les bourreaux après le turbin, les bourreaux de la vindicte, les bourreaux de la sentence, les bourreaux ne sont que la suite, les bourreaux suivent les instances. Les bourreaux, des petits bourreaux, chefs de bureau, des grands gourous, les bourreaux, chefs de bourreaux, les bourreaux, savent trier, dit-on, livrer du bon grain, les bourreaux, d'un coup de tampon, te remplissent un train. Les bourreaux, bourreaux d'enfants.
Les bourreaux,
enfants de bourreaux.
Les bourreaux,
serre les dents.
Les bourreaux,
abattent du boulot.
Les bourreaux
suivent à la lettre les éminences grises.
Les bourreaux
changent de tête comme de chemise.
Les bourreaux
pour oublier boivent du houblon.
Les bourreaux
faut pas pousser, parfois pètent un plomb.
Les bourreaux
te passent à l'écrou.
Les bourreaux
serrent les boulons.
Les bourreaux
sont pas des loups, sont des moutons.
Les bourreaux,
quand sonne l'heure de leur belle mort.
Les bourreaux,
dans leur limeur, sans remords. Pourquoi pas devenir bourreau, c'est l'avenir. Faudra bientôt des bourreaux de bourreaux. Les bourreaux, ni des martiens.
Les bourreaux,
ni des animaux.
Les bourreaux
sont des humains.
Les bourreaux
font de vieux os.
Les bourreaux, ni des martiens.
Les bourreaux, ni des animaux.
Les bourreaux sont des humains.
Les bourreaux font de vieux os.
Les bourreaux ni des animaux,
les bourreaux sont des humains,
les bourreaux font de vieux os.
Les bourreaux ni des martiens,
les bourreaux ni des animaux,
les bourreaux sont des humains,
les bourreaux font de vieux os.
Les bourreaux ni des martiens,
les bourreaux ni des animaux,
les bourreaux sont des animaux,
les bourreaux font de vieux os.
Les bourreaux ni des martiens,
les bourreaux ni des animaux,
les bourreaux sont des humains,
les bourreaux font de vieux os.
Les bourreaux ni des martiens.
Les bourreaux, la tordue dans VMDN sur RFI avec Patrick Mallet et Boris Bezolin à l'occasion de la sortie du deuxième album des Sansons et l'amateur de souffrance chez Vent d'Ouest. Et nous sommes en duplex d'Aix-en-Provence avec Frédéric Armand. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc en duplex grâce à nos collègues de France Bleu. Vous êtes historien, juriste et vous êtes notamment spécialiste du Moyen-Âge. Et on vous a invité aujourd'hui parce que vous êtes l'auteur aux éditions Perrin d'un ouvrage intitulé « Les bourreaux en France, du Moyen-Âge à l'abolition de la peine de mort ». Et vous évoquez à plusieurs reprises dans cet ouvrage cette famille de bourreaux, les Sansons, qui ont donc exercé à Paris dans les années 1688 à 1847, six générations. Donc, alors, on a raconté beaucoup de choses pour eux, notamment suite à la publication des fameuses mémoires de Sansons en 1830 qu'on évoquait tout à l'heure avec Patrick Ballet, ouvrage, si je vous ai bien lu, Frédéric Armand, qui est largement sujet à caution, hein, et un petit peu romancé visiblement.
Très romancé, oui, c'est un roman, mais qui se base en partie sur des notes réelles, donc c'est un mélange entre fiction et reportage qui est assez intéressant à lire, effectivement, on ne se lasse pas de lire. Les auteurs de la BD donc, que vous recevez se sont basés sur le début de cet ouvrage qui est totalement romancé et inventé lui-même. Quoi.
Mais pour vous, le témoignage tel qu'il apparaît à travers ce roman reste une source d'information parmi d'autres ?
Alors tout à fait, oui, parce qu'en fait c'est basé sur l'histoire, il y a beaucoup de faits historiques. En revanche, ce qui n'est pas très historique, ce sont les récits des bourreaux eux-mêmes, quoi, sur leur propre vie. Voilà, disons que c'est apocryphe parce que c'est pas eux qui l'ont écrit réellement. En revanche, c'est basé sur des faits réels et sur des histoires vraies.
Alors vous faites justement dans votre livre la part des choses entre la légende, le fantasme, le roman et les faits réels. Vous avez travaillé avec des sources administratives, sur des témoignages directs ou indirects. On apprend vraiment énormément de choses dans le livre et il y a plein de détails comme ça que l'on retrouve et qui se vérifient entre les deux albums de BD et votre ouvrage. Un peu d'histoire pour commencer, Frédéric Armand. Comment à cette profession, qui est quand même extrêmement particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, est-elle née ? C'est un héritage de l'Empire romain ?
Ça remonte encore plus loin. On peut fixer ça au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. En fait, quand la société s'organise et prend à sa charge l'exécution de la justice, donc pour que les gens acceptent de ne plus châtier eux-mêmes les criminels, on va dire, on emploie un bourreau qui va infliger la mort à leur place. Quoi.
Voilà, donc c'est un exécuteur de justice, hein, il doit appliquer la sentence décidée par les magistrats et il doit le faire sans se poser de questions, hein. En fait, on décide et il exécute, sans mauvais jeu de mots.
Exactement. Il ne doit pas se poser de questions. Il doit faire strictement l'ordre qui lui est donné, qui est toujours précis. Et il ne doit ni infliger plus de souffrance, ni aller trop vite. Voilà, c'est juste un rouage de la justice.
Alors, ce n'est pas un boucher, hein. Ce n'est pas non plus un amateur de souffrance, quoi. Son but, ce n'est pas de faire mal.
Non, non, pas du tout. Lui, il fait exactement ce que le juge a décidé, quoi.
Alors, ce souci de bien faire, Boris Beuzelin, de ne pas rater son geste, c'est vraiment une constante, hein, chez vos personnages, d'autant qu'ils pensent que s'ils ratent leur geste, ça va renforcer le plaisir de leur ennemi, hein, donc ce fameux amateur de souffrance que vous avez évidemment inventé de toutes pièces. Sauf que le lecteur, lui, il est aussi un peu malsain, il est aussi un petit peu attiré par l'odeur du sang. Et on voit les flaques de sang, on voit les têtes exhibées. Vous avez un dessin un peu gore, hein. On voit les haches, les épées, dont le sang coule dans votre dessin. Mais c'est un gore gentil, d'une certaine façon. C'est ça qui est très étonnant, quoi. Vous vous êtes demandé justement jusqu'où aller, jusqu'où aller, oui. Comment faire en sorte de ne pas trop en faire. Comment vous avez placé ce curseur-là?
Eh ben, à chaque fois, je me suis posé effectivement cette question-là quand j'avais à dessiner une exécution. L'idée, c'est de coller au plus près de la narration et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter et de se mettre à la place du lecteur. Nous, on va raconter quelque chose de manière à ce que le lecteur ressente une émotion qu'on veut faire passer. Donc, il s'agit pas de faire du gore pour du gore. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ. Mais par contre, quand il faut mettre le paquet, il faut pas avoir peur du sujet, il faut y aller.
Parce que là, quand on montre une tête qui vient d'être coupée et dont le sang coule, il coule vraiment le sang.
Ouais,
hein.
Parce que là, on a besoin d'impacter énormément le lecteur. Donc là, on y va à fond. Hein, on fait sans exagérer tellement, je pense, du gore gentil peut-être. Oui, c'est ça. Mais par exemple, pour moi, la planche emblématique à ce niveau-là, c'est la planche du début de la première décapitation, parce que à ce moment-là, on a le lecteur en même temps que notre personnage découvre que voilà, il va tomber dans une histoire de bourreau. Et donc cette page-là, il fallait qu'elle soit extrêmement réussie et qu'elle soit très très impactante. Donc là, pas de doute, il fallait montrer la décapitation, la tête. Mais en même temps, si on cherche à décortiquer un petit peu cette page, on voit que c'est le lecteur qui fait le travail finalement dans sa tête et que on voit pas la décapitation. On voit l'épée qui se lève et puis le regard du lecteur descend la page en biais. Et du coup, après, on a la tête qui est tranchée, quoi. Et du coup, on a quelque chose d'intéressant dans la narration. C'est-à-dire que le lecteur fait le travail. Il en a pris, je pense, pour son argent. Mais en même temps, on n'a pas montré vraiment, on n'a pas tronçonné ça. On n'a pas,
oui, c'est le cas de le dire,
on
n'a
pas montré plein de petites images qui montrent l'épée qui tranche, je sais pas.
Mais c'est vrai que c'est important la question du regard du lecteur, parce que la question du regard, elle entre en résonance avec le regard du peuple qui assiste, évidemment, à ce moment-là, aux différentes exécutions. Frédéric Armand, parce que aller à une exécution, c'est un peu comme aller au spectacle, quoi. On emmène les enfants. Hein.
Alors on emmène les enfants effectivement, mais c'est pas dans un but de le divertir, c'est dans le but de l'instruire, de lui dire voilà, si tu agis mal, voilà comment tu finiras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment ça n'a aucune efficacité, puisque des gens qui sont exécutés et qui ont assisté eux-mêmes auparavant à des exécutions, il y en a eu beaucoup.
Oui, mais il y a eu au départ, dans l'idée même de l'exécution en place publique, une dimension pédagogique, comme si c'est une dimension pédagogique et même dissuasive.
Non, pas vraiment. C'est plutôt une dimension sociale, c'est-à-dire regarder la justice est faite. Parce que la justice est rendue au nom du peuple.
Mais alors justement, cette question de la souffrance, précisément, comment est-ce qu'elle était utilisée dans ce geste de justice ?
La souffrance, elle était assez... Enfin, il n'y avait pas de... C'était rare qu'une sentence ordonne de faire souffrir le patient, enfin le condamné. Sauf pour des criminels qu'on jugeait les pires, c'est-à-dire par exemple ceux qui attentaient à la vie du roi.
Voilà, ce qui est le cas de Damiens, par exemple, Damiens, qui donc a poignardé Louis XV, sans que Louis XV soit mort, hein, évidemment, mais qui a été... on revient d'ailleurs sur cet épisode dans le deuxième... Dans le deuxième tome de l'histoire, Patrick Mallet, justement, ce rapport à la souffrance-là, finalement, c'est l'une des questions que pose aussi cette série d'albums, quoi. C'est-à-dire, justement, ce regard qui est à la fois le regard du lecteur et le regard du spectateur au moment de l'exécution publique.
Oui, c'est vrai, tout ce que dit Boris, c'est très intéressant. C'est vrai que il fallait toujours se demander qu'est-ce qu'on montre, est-ce qu'on en montre, ne pas en montrer trop, ne pas non plus avoir peur de notre sujet. Et c'est vrai que moi, à l'écriture du scénario, je me suis souvent posé la question jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on montre. Je pense pas qu'on ait été dans de la violence gratuite. Il s'agissait justement de faire aussi comprendre le côté de l'amateur qui jouit de ce spectacle. Il y a le porte-à-faux aussi avec le regard du spectateur, du lecteur. Tout ça est un peu mélangé, donc c'est assez intéressant que le lecteur soit pas forcément non plus très à l'aise, mais qu'il se dise, attendez, est-ce que je participe, est-ce que je suis en retrait, est-ce que finalement l'amateur c'est moi, enfin, parce que je continue à feuilleter les pages. Donc il y a tout ça est un peu difficile à mélanger, mais c'était ce que je voulais faire.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Boris Bezolin et Patrick Mallet à l'occasion de la sortie du deuxième album des Sansons et l'amateur de souffrance, bande dessinée publiée chez Glénat dans la collection Vent d'Ouest, et le juriste et historien Frédéric Armand, auteur chez Perrin d'un livre intitulé Les bourreaux en France, du Moyen-Âge à l'abolition de la peine de mort. Et tout à l'heure, dans la chanson de La Tordue, elle parlait des... Enfin, il parlait, puisque c'est un chanteur, il parlait des bourreaux de père en fils et de la vindicte populaire. Ça, c'est vraiment deux éléments majeurs de votre scénario. Patrick Mallet, peut-être d'abord, pour vous, les Sansons et leurs collègues, parce qu'il y a d'autres bourreaux qui interviennent dans le corps du récit, les bourreaux, ce sont des familles de marginaux.
Oui, ils sont effectivement en marge de la société de par leur métier. On ne fraye pas avec les bourreaux. Trouver une femme pour le bourreau, c'était compliqué. Ils se mariaient entre guillemets entre familles de bourreaux. Mais c'est vrai que c'est un métier quand même, quand on y pense, complètement à part. Il s'agissait quand même de tuer des personnes avec l'assentiment de l'État. C'est pas quelque chose de commun. Donc j'aime beaucoup que vous ayez mis en parole, en fait, ce monologue où on voit effectivement toute la dualité du premier bourreau sur lequel tombe ce métier comme ça, comme une chape de plomb. Voilà, il doit le faire, il va le faire, mais ça lui coûte énormément quand même.
Oui, c'est une charge, hein, effectivement, c'est le mot qui est utilisé. Comment faut-il comprendre l'expression de charge, Frédéric Armand, et l'expression de hautes œuvres qui pourraient, justement, au contraire, être le signe plus d'un honneur que d'une condition de paria, parce que vous utilisez aussi le mot paria.
Oui. Alors, concernant les hautes œuvres, en fait, ça vient simplement du fait que l'exécution est faite en hauteur, sur un échafaud. Au départ, c'est pour ne pas souiller le sol, parce que ce sont des criminels qui ne méritent pas leur place sur terre, quelque part. Et donc, hautes œuvres, c'est par rapport à ça, quoi. Ça se fait sans toucher le sol. La plupart des exécutions n'ont pas lieu au sol. Par exemple, la pendaison, etc. C'est toujours dans les airs, la crucifixion également.
Mais alors justement, c'est une charge officielle qui en plus s'appuie sur la foi, puisqu'on exécutait quand même aussi au nom de Dieu, hein, je parle sous votre contrôle, Frédéric Armand. Pourquoi, à ce moment-là, les bourreaux, agents à la fois de la justice du roi, donc de la justice divine et de la justice civile, sont-ils considérés comme des parias? Sont-ils si méprisés?
Ils sont méprisés parce que on veut pas avoir affaire à eux. C'est effectivement parce qu'ils donnent la mort, ils exécutent, mais c'est au nom du peuple. C'est un peu le paradoxe. Et souvent le bourreau est applaudi les jours d'exécution, et les autres jours on le fuit, quoi. On évite de le toucher, de le voir, de le croiser. Et généralement ils ont un logement de fonction qui est situé en dehors des remparts de la ville. Donc il ne peut pas se mêler à la population.
Et puis il y a aussi tous ces fantasmes autour de la main du bourreau, donc celle qui inflige la mort. On est dans la légende, dans le fantasme, ou dans une vraie réalité de la vie quotidienne?
On est tout à fait dans la réalité. Même le bourreau lui-même souvent porte des gants pour ne pas toucher, pour ne pas être sali par la mort, par le sang. Et effectivement, il y a des anecdotes plus assez cocasses de personnes qui ont touché la main du bourreau sans le savoir, et lorsqu'elles l'apprennent, elles s'horrifient, quoi.
Alors, dans ce contexte, évidemment, comme le disait Patrick Mallet, il y a un instant, c'est pas facile de trouver une épouse. C'est pour ça qu'on se marie entre familles de bourreaux, Frédéric Armand?
Oui, tout à fait. C'est une corporation très très fermée, parce que effectivement, pour se marier notamment, c'est difficile de trouver quelqu'un qui accepte d'épouser un bourreau. Et de même, les enfants de bourreaux n'ont pas beaucoup de choix dans la profession qu'ils peuvent exercer.
Mais rien ne les oblige à prendre la succession de leur père, légalement parlant.
Il n'y a pas d'obligation, non, tout à fait. Il n'y a pas d'obligation. En revanche, ils n'ont pas d'autre choix, parce que c'est le seul métier qu'ils puissent apprendre. Surtout dans la période des Sansons, sur ces deux siècles-là, aucun autre artisan, on va dire, n'accepte de les prendre comme apprentis. Donc forcément, dès leur plus jeune âge, ils commencent à apprendre le métier, à aider leur père.
Voilà, ils deviennent donc l'apprenti de leur père, et ça, vous racontez vraiment très bien cette transmission, hein, Patrick Mallet. On voit dans le dessin de Boris Bezolin le fils qui regarde le père œuvrer, qui lui porte les outils, qui lie les mains parfois des condamnés, et qui finissent, pas au début, mais au bout d'un certain temps, à accomplir eux-mêmes le geste fatal. Parfois, d'ailleurs, ça va plus vite que prévu, parce que le père, il peut avoir un petit accident de santé, et là, oui, ça se complique.
Oui, voilà, effectivement, à partir du moment où le père, le bourreau en titre, meurt, eh ben, il faut idéalement que le fils lui succède. Alors, parfois, il y a des espèces de temps comme ça, un peu de régence, j'irais, où on met un autre bourreau, parce que le fils est vraiment trop petit, là, même pour simplement manier les instruments, au-delà du fait que c'est proprement abominable d'imaginer un enfant ou un adolescent en train de tuer un adulte. C'est vrai que c'est tout le paradoxe de ce métier, que quelqu'un doit exercer évidemment de manière continue, parce que les exécutions, elles ne s'arrêtent pas, donc il faut toujours un bourreau, quoi.
Alors on transmet la charge de donner la mort, d'appliquer la sentence. On transmet aussi des connaissances anatomiques. Ça c'est assez étonnant aussi.
Oui, alors là, je sais pas, je vais parler un peu sous le contrôle de votre
spécialiste. De Frédéric Armand, oui.
Tout à fait.
Mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelques cases, elles sont pas les plus nombreuses dans les deux albums, mais quand même, où on a l'impression que le bourreau est aussi une sorte d'adjuvant médecin.
Oui, bah, en tout cas, à l'époque, effectivement, il utilise ses connaissances anatomiques. Alors, dans le journal des Sansons, il dit que c'est pour, justement, essayer de prévenir le maximum possible de souffrance et de n'appliquer uniquement que ce qui doit être appliqué au niveau d'une sentence. Donc, on essaie de d'imaginer où est-ce qu'il faut taper avec la hache entre telle et telle vertèbre pour que le coup ne pas rater son coup, ce genre de choses. C'est vrai que moi, cette dimension-là m'a énormément intéressé, parce qu'on avait justement ce que je recherchais, même si c'est un peu apocryphe, l'idée que les bourreaux étaient là pour faire souffrir le moins possible. Je voulais vraiment que les gens qui lisent cette bande dessinée sortent un petit peu de l'image d'Épinal, du bourreau massacreur, tortionnaire. C'est vrai que je voulais absolument m'en écarter. Donc j'étais très content de trouver ce côté, oui, presque pharmacien. À des moments, on verra dans la suite de la série, ils finissent par faire des filtres, des potions, presque des pommades. Enfin, c'est assez marrant.
Vous avez des éléments concrets qui vont dans ce sens-là, Frédéric Armand?
Oui, absolument. C'est tout à fait exact ce qui est raconté dans les mémoires des Sansons. C'était des spécialistes du corps humain, effectivement, comme dit votre invité, il fallait qu'ils sachent où planter, où frapper pour faire moins mal possible, et puis surtout pour pas rater, quoi, hein, taper entre les vertèbres, etc. Et puis ils faisaient aussi des potions, effectivement, avec les corps humains. Et il était assez, enfin, tous les bourreaux, hein, c'est pas spécialement les Sansons, ils étaient consultés par la population lorsqu'ils avaient des rhumatismes, etc. Et il y a eu beaucoup de procès au 18e et 19e siècle des pharmaciens et des médecins contre les bourreaux pour les empêcher d'exercer. C'est donc, il y avait vraiment une activité de soignant à côté.
Et ça peut aller aussi jusqu'à des activités chirurgicales, parce que je crois que vous citez au détour d'un chapitre le don d'Ambroise Paré, quand même, qui était pas bourreau à ma connaissance.
Non, non, pas du tout. Non, c'est une analogie que je fais. Il ne faisait pas de chirurgie, les bourreaux.
Alors, justement, Frédéric Armand, à votre connaissance, eu égard aux témoignages que vous avez lus, aux récits que vous avez accumulés, les bourreaux en général et les Sansons en particulier, est-ce qu'ils aimaient leur métier?
Oui. Alors, on va dire oui, ils aimaient leur métier parce qu'ils avaient le sentiment très fort de d'être utile à la société et éventuellement à Dieu. Et je pense que sans cette considération-là, ils n'auraient pas pu faire un métier aussi pénible.
Mais c'est la pénibilité du métier qui était difficile à vivre, ou bien c'est justement leur statut de paria, de marginal qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que là, y compris pour leur famille, c'était quand même quelque chose de difficile à vivre, non ?
Pour les témoignages les plus récents qu'on ait, c'est ceux des Blair, par exemple, une autre dynastie. Souvent, le bourreau est malade la veille d'une exécution parce que il sait ce qu'il va faire et il le vit très mal, mais il sait que c'est son devoir. Et donc il le fait par souci de devoir accompli quoi.
En quoi consiste concrètement, Frédéric Herman, le travail préparatoire à l'exécution ? Il y a une préparation psychologique, il y a une préparation plus technique. Comment ça se passe la veille et dans les heures qui précèdent immédiatement le geste fatal ?
Alors en fait, votre question est assez large parce qu'il y a eu beaucoup de modes d'exécution différents jusqu'à ce qu'on adopte la guillotine à la Révolution. Et donc les modes de préparation étaient différents en fonction du supplice qu'on devait infliger. Mais souvent, c'était aiguiser la lame de l'épée ou la hache pour que le tranchant soit irréprochable et que l'exécution se fasse en un seul coup. Après, psychologiquement, je pourrais pas vous dire précisément ce qu'il en est, mais c'était se préparer à l'idée de devoir accomplir le geste. Quoi.
Patrick Mallet.
Oui, moi je voulais juste rajouter, il y a une scène que j'ai trouvée de nouveau dans Jean Les Sansons, que j'ai mise dans la bande dessinée, qui est assez intéressante, alors est-ce qu'elle est vraie ou pas, mais quand il a fallu exécuter Damiens, donc le régicide, il avait voulu attenter à la vie du roi, donc on l'avait catégorisé, même si le roi n'était pas mort, en régicide. Et donc les supplices pour les régicides, c'est des trucs absolument abominables, à base d'écartèlement, de souffrances effroyables. Et donc Les Sansons, le dernier régicide qui était passé par là, c'était Ravaillac. Donc ils ont dû compulser des vieux grimoires, comment est-ce qu'on écartèle, quoi, parce que plus personne en fait n'avait cette science-là. Ça s'était passé il y a un siècle et demi. Et donc comment fait-on ? Donc il a fallu, il y a une préparation effectivement psychologique sur affronter ce qu'on va faire aux condamnés. Et puis il y a aussi peut-être une préparation plus technique, assez étonnante, où tout d'un coup il faut comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va gérer ce problème ? Comment est-ce qu'on va gérer cette exécution qu'on nous demande de faire ?
Est-ce qu'il y a un habit de fonction, Frédéric Herman, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on se dit toujours le bourreau cagoulé, on ne doit pas voir son visage, etc. C'est une réalité historique, ça, ou pas du tout ?
Alors, la cagoule du bourreau, c'est plutôt en Grande-Bretagne. En France, non, le bourreau n'avait jamais de cagoule. Et il avait généralement des habits très voyants, de manière justement à ce qu'on puisse savoir que c'était le bourreau et l'éviter, quoi.
Oui, mais d'ailleurs,
quelqu'un d'anonyme.
Le vert Sanson, je crois.
Le vert Sanson.
Oui, il me semble que le bourreau le plus connu de la dynastie, Charles-Henri Sanson, lui avait des habits verts et c'est presque devenu une couleur, le vert Sanson.
Mais c'est vrai qu'il est vert et rouge en particulier, oui. Je crois, dans l'album Boris Bezos. Alors, c'est pas vous qui avez colorisé, je sais pas comment on doit dire exactement d'ailleurs.
Dire les deux, colorier, colorisé.
L'album, hein. Les couleurs sont quand même extrêmement visibles, qu'on n'est pas du tout dans une BD trop noire, quoi. Au contraire, on a presque l'impression de quelque chose d'assez gai du point de vue couleur.
Moi, encore une fois, fan d'expressionnisme, je mets beaucoup de noir déjà dans mon noir et blanc.
Il y a tout un jeu sur les ombres,
donc,
quand même.
Si on voyait, il y a beaucoup de clair-obscur, beaucoup de choses très tranchées comme ça. Donc, pour accompagner un dessin comme ça, il faut une couleur, de préférence en aplat, assez minimal. Il n'est pas question de commencer à faire de la peinture avec des effets graphiques compliqués. Non, il faut que la couleur reste simple. Alors, dans la couleur de bande dessinée, on peut catégoriser ça en deux choses différentes. Il y a la couleur qu'on pourrait dire naturaliste, c'est-à-dire il fait beau, le ciel est bleu, on met un ciel bleu, c'est dehors, l'herbe est verte, bon, voilà. Et puis il y a la couleur narrative qui, elle, va véhiculer des émotions, et là qui est une couleur totalement, qui n'est pas justement naturaliste, qui peut sortir complètement des sentiers battus, qui n'a rien à voir avec ce que serait la couleur dans la réalité. Et justement, c'est l'avantage de la bande dessinée, ça nous permet justement de créer des émotions particulières avec en jouant beaucoup sur un système coloré, une gamme colorée qui n'est pas réelle du tout. Patrick Mallet.
Oui, je vais juste rajouter, effectivement, les couleurs, moi je les trouve géniales dans la série, parce que justement, c'est une chronique familiale. C'est pas parce qu'on traite du thème des bourreaux que tout devrait être forcément dans une atmosphère gothique, oppressante. Au contraire, c'est juste une famille aussi qui se transmet des choses. Et donc, voilà, il y a, effectivement, il fait beau des fois il pleut. Enfin, il y a plein d'ambiances, plein d'atmosphères différentes qu'on retrouve.
Alors, il y a un personnage, moi, que j'attendais quand même depuis le début de la série, c'est le personnage de Louis XVI. Alors, il arrive hein, dans la deuxième partie de la série. C'est lui, notamment, qui supprime le droit de havage. Hein, donc, l'un des avantages accordés aux bourreaux qui avaient la possibilité de se servir modérément, mais enfin, quand même un peu sur les étals des commerçants. Et puis, il y a un dessin assez incroyable, Boris Bezolin, c'est quand on lui présente la guillotine, on lui présente le projet de guillotine. Il y a une lame comme ça en forme de croissant, et c'est le roi lui-même de sa plume qui raye la lame et qui dit ah non, ça va pas marcher ça, il faut une lame en biseau.
Oui, alors moi j'ai dessiné ça parce que c'est la légende. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça j'avoue que je sais pas, mais c'est quand même une légende qui est largement véhiculée. Le roi aurait effectivement modifié la lame de manière à ce que ce soit plus efficace.
Ce qu'il a pu vérifier lui-même.
Oui.
Peu de temps après.
Ce qu'il a pu vérifier. Et donc d'un trait de plume aurait effectivement dit voilà, mettons ça en biseau comme ça, clac, et ça marchera beaucoup mieux. Donc j'ai fait une grande image qui montre clairement cet épisode peut-être historique.
Ouais. Le passage à la guillotine, Frédéric Armand, ça change tout.
Alors ça change beaucoup de choses. J'ajoute pour concernant la lame de la guillotine, c'est dans les mémoires de Samson effectivement qu'on attribue cette invention de la lame biseautée à Louis XVI qui était féru de serrurerie et de mécanisme, mais en fait dans la réalité c'est le docteur Louis qui a été chargé par l'Assemblée de construire la guillotine. C'est lui qui a on va dire conçu cette lame. Le passage à la guillotine, ça change énormément de choses. Donc c'est guillotin en 1789, un député qui à l'Assemblée propose que tout le monde soit exécuté de la même manière et non plus les pauvres pendus, les nobles décapités et les hérétiques brûlés, etc. Et donc c'est dans un geste totalement humaniste qui fait cette proposition, qui est acceptée. Et une fois acceptée, il faut trouver le moyen de la concrétiser. Donc pendant à peu près un an et demi, on va concevoir cette guillotine qui va être utilisée pour la première fois à Paris, donc par un des Sansons, Charles Henry, en 1792. Et donc le peuple est extrêmement déçu de cette exécution parce que la lame tombe en quelques secondes et on n'a rien vu.
Voilà, oui.
Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de souffrance et tout le monde repart déçu en réclamant qu'on rétablisse la potence. Quoi.
Voilà, et c'est par l'exécution de Louis XVI que se termine ce deuxième album des Sansons et l'amateur de souffrance paru, je le rappelle, chez Vent d'Ouest. Le troisième tome est prévu pour le 28 août. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous dans VMDN. Nous accueillons un vrai bourreau de travail. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Patrick Mallet, Boris Bezolin et Frédéric Armand.
Là c'est Moutaté, hein, la française Jeanne Haddad, qui sera à l'affiche des Eurokéennes 2019, fameux festival d'été indépendant et engagé qui en est à sa 31e édition. Il ouvre ses portes demain et il les refermera dimanche.
La manifestation depuis 1989 totalise 1647 concerts devant près de 2 557 000 festivaliers. En plus de 30 ans d'organisation, il faut savoir qu'il est arrivé parfois à son directeur Jean-Paul Rollin de découvrir par hasard des artistes tels que non pas la Sanson Véronique mais l'américain Reggie Watts en buvant tout simplement une bière dans un bar aux États-Unis. Une bonne recette pour recruter les artistes, Jean-Paul Rollin?
Oui, ça c'est des choses. Alors bon, c'est pas qu'on passe notre temps à boire des bières hein, quand même, mais en tout cas le bar c'est quelque chose d'important dans un club. Il faut savoir qu'effectivement on part tous chacun de notre côté, programmateur, directeur et tout ça, et puis quand on revient en général en septembre, on dit bah tu sais, j'ai vu ça à Abidjan, super, j'ai vu ça dans un club, et un autre va dire ah écoute, je suis allé en Corée, j'ai trouvé ça. Donc l'idée aussi c'est d'aller fouiner finalement là où ça se passe, on voit des petites choses, et puis d'imaginer comment ça peut être mis pour le plus grand. grand nombre, parce que c'est ça aussi une des difficultés, c'est que bien entendu on présente ça, la plus petite scène elle fait quelques milliers de personnes, au moins 5-6 000, donc il faut aussi que le projet soit prêt, il faut que le, voilà, que ça soit pas non plus un piège bien entendu pour un groupe naissant, mais il y a une bonne, en tout cas on s'est jamais trop planté j'allais dire, et puis il y a toujours un bon accueil en tout cas de notre public qui fait aussi confiance comme ça, être un petit peu à qui on a peut-être un peu poussé le côté un petit peu curieux.
L'anglaise Kate Tempest avec Circles en concert samedi à Belfort, où chaque année une multitude de nationalités sont conviées sur les quatre scènes, à l'instar des Sud-Africains de BCUC lors de la précédente édition. À ce propos, que garde Jean-Paul Roland de leur passage ?
C'était super, parce que là aussi l'histoire d'un festival européen avec le continent africain, il a toujours été fort. Le staff Bendabili par exemple a fait son premier concert hors de Kinshasa à Belfort.
Encore une exclue
de l'époque. Konono numéro 1 aussi, première tournée, ils sont venus. Donc c'est vrai qu'on regarde un petit peu du côté africain, on y va assez souvent, et puis on regarde, j'allais dire, c'est ce que dit souvent le programmateur, les choses peut-être un peu rugueuses, ce qu'on appelle un peu le tradit moderne, c'est-à-dire qu'on a le pied entre eux, effectivement une sorte un petit peu d'exotisme dépassé, et puis une tradition moderne qui est par exemple l'électro. Cette année on fait venir une DJ qui s'appelle DJ Campire d'Ouganda, parce qu'en ce moment en Afrique, effectivement, notamment en Afrique de l'Est, le grand mouvement c'est l'électro, un électro à la sauce effectivement africaine, et c'est tout ça qu'on a envie de montrer effectivement aux Européens.
À Belfort l'an dernier, extrait de concert offert par les Eurocaennes, dirigé de main de maître particulièrement par Jean-Paul Roland, dont le père d'ailleurs Alain est ivoirien.
Alors qu'a-t-il conservé de ses origines de Côte d'Ivoire et du fait d'avoir sillonné la brousse ?
Écoutez, j'allais dire effectivement une relation à la musique particulière, puisque la chaîne stéréo marchait tout le temps, et c'était plutôt l'époque de cette époque des années 70, c'était plutôt l'époque où le continent africain était très tourné vers Cuba, voilà, et donc tous ces rythmes cubains arrivaient en Afrique, et après ils ont bien entendu été déclinés, hein, c'est la rumba zaïroise, etc., Zaïko Langa Langa, enfin tous ces groupes là Taboulé, tout ça, tous ces groupes là sont effectivement arrivés après. Donc c'est une période assez charnière, parce que c'est une période où en fait j'avais l'impression de vivre un exotisme, mais qui n'était pas africain, qui était finalement plutôt tourné vers Cuba. Donc ça c'était bien. Et puis le rapport à la musique, c'est-à-dire que la musique inondait, j'allais dire, vraiment tous les moments de la vie.
Merci infiniment, et n'oublions pas notre t-shirt. Je peux pas, je suis à Roland.
Merci.
Les Sœurs d'Oga du Burkina Faso, le 6 juillet aux Eurocaennes de Belfort, qui démarre ce jeudi et s'achève donc le 7 juillet. Ce fameux t-shirt, hein, vous me le précisiez Alain, c'est celui qui est posté sur la page internet de Jean-Paul Roland, au départ fabriqué pour le tournoi de tennis de Roland-Garros, mais donc détourné par le directeur des Eurocaennes. Merci Alain. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain avec le journaliste et écrivain Olivier Weber pour son dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, paru chez Plomb, et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.